Radio Kapi.
Bientôt, une opération acharnée de traque contre les groupes armés dans le Nord Kivu. Nous allons traquer et frapper sans pitié, a dit le gouverneur de province. Le lieutenant général Constant Ndima rendait visite hier aux ex-combattants cantonnés à Rumangabo. Province Sankuru, 48 heures après sa nomination, la ministre provinciale Cécile Edungu de l'énergie, affaires sociales et droits humains renonce à ce poste. Elle s'est dit non disponible à œuvrer au sein de la nouvelle équipe gouvernementale, décision qui ne plaît pas aux organisations de défense des droits de la femme du Sankuru. Et puis, l'invité de ce matin, Alain Chimbalanga, directeur provincial de l'Office des voiries et drainage, OVD, il revient sur le projet Chile Djelou, qui consiste à l'assainissement et l'asphaltage d'environ 35 km de la voirie urbaine dans la ville de Kananga. Madame, Messieurs, bonjour. Le lieutenant général Constant Ndima, gouverneur du Nord Kivu, annonce une opération acharnée de traque contre les groupes armés pour restaurer la sécurité dans cette province. Annonce faite hier au camp militaire de Rumangabo, près de 30 km de Goma dans le territoire de Rutshuru. L'autorité provinciale a également apporté une assistance aux combattants cantonnés à Rumangabo. Sifamaguru pour le reportage.
C'est au cours d'une causerie morale devant au moins 400 combattants rendus qui sont cantonnés dans ce site depuis plus d'une année en attendant le processus de démobilisation que le lieutenant général Ndima a donné ses messages. Nous sommes dans la phase de sensibilisation. Que le bon citoyen se retire, car nous allons traquer et frapper sans pitié, a-t-il souligné. Le gouverneur militaire a également demandé à ses rendus de faire parvenir ses messages à leurs frères qui traînent encore dans la brousse. Il a par la même occasion remis une quantité de vivres et non-vivres à ses rendus qui attendent toujours la concrétisation du processus de démobilisation. Après Rumangabo, le gouverneur militaire Constant Ndima s'est rendu à Rutshuru où il a échangé avec plusieurs couches de la population à qui il a transmis le même message. Goma, Sifamaguru, Radio Kapi.
Par ailleurs, deux élus du Haut-Katanga se sont rendus à Beni pour soutenir les FARDC, disent-ils. Les députés René Olamba et Yannick Lumbu ont remis un don d'une dizaine de tonnes de vivres, non-vivres, médicaments et des bouteilles d'eau. Ces élus ont également remis de l'aide financière aux militaires, au front ainsi qu'à leurs épouses. Le premier à avoir reçu ce don au nom de l'armée et le commandant secteur opérationnel, le général Peter Chirimwami, parle d'un geste louable de réconfort. Il s'exprime au micro de Marc Mauro Fimbo.
Nous venons de remarquer que le mot du chef de l'État est respecté à partir même des élites du peuple. Vous voyez, les honorables ont quitté Lubumbashi pour venir soutenir la décision du chef de l'État, de l'État de siège, mais aussi soutenir leur armée avec tout ce que nous sommes en train de faire. Nous pensons que c'est un geste louable, un geste de réconfort, un geste qui va tout droit à nos cœurs et notre armée en fera part qu'ils sont arrivés et peut-être c'est pas la dernière fois. Ils vont toujours continuer à venir pour qu'on puisse terminer avec cette menace qui a tellement perduré et qu'on pense qu'avec leur soutien, la paix est possible ici à Beni.
Et deux semaines après l'instauration de l'état de siège au Nord Kivu en Ituri, qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui n'a pas encore été fait? Ici, les points de vue des populations de Beni restent partagés. Si les uns saluent ce qui s'est fait parce qu'il y a accalmie dans certaines localités, d'autres par contre disent attendre de voir les retombées de l'état de siège qui ne sont pas encore palpables, disent-ils. Quelques habitants de Beni se sont exprimés au micro de Guylaine Kassassia.
Ça va puisque depuis deux semaines, on est en train de remarquer même qu'il y a un petit calme là où il faut des Kassindi, il y a même des gens qui passent sans problème. Si ça continue comme ça, ben vraiment ça va.
D'après l'installation de l'état de siège en ville de Beni, rien n'a changé. Il y a toujours des tueries, il y a et ça ne va pas.
Mais je ne sais pas si réellement on a commencé encore les travaux.
Lorsque le président de la République a pris cette mesure, nous sommes dit que bon, c'est pour l'intérêt déjà de la province. On attend voir les résultats sur le terrain parce que là on n'a rien vu. Malgré l'état de siège, c'est les sécurités qui continuent. L'état de siège a suspendu presque toutes les activités. Au niveau des juridictions civiles, les magistrats civils ne travaillent plus. Je crois bien que l'André journalier n'est plus. Et puis les amendes là, allaient juste dans le trésor public. Là, c'est déjà quelque chose qui pourra juste handicaper les gains au niveau du trésor public.
On n'a pas encore attendu que le maire est déjà là, le bourgmestre. C'est comme si Beni est à l'écart parce qu'ailleurs, tout est fonctionnel.
Direction la province du Sankuro. 48 heures après sa nomination, le ministre provincial de l'énergie, affaires sociales et droits humains vient de renoncer à ce poste. Dans une lettre adressée jeudi au gouverneur Joseph Stéphane Mukumadi, la ministre Cécile Edungu s'est dit non disponible à œuvrer au sein de la nouvelle équipe gouvernementale. En réaction, les organisations de défense des droits de la femme de Sankuro déplorent cette décision étant donné que la représentativité de la femme, disent-elles, n'a même pas été respectée au sein de ce gouvernement provincial. Explication Esther Ndalafina.
Cécile Edougou, la seule femme nommée mercredi ministre provincial en charge de l'énergie, des affaires sociales et des droits humains, a renoncé à ce poste 48 heures seulement après sa nomination. Dans une correspondance adressée au gouverneur de province, Cécile Edougou évoque l'indisponibilité comme la seule raison qui l'empêche de travailler au sein de la nouvelle équipe gouvernementale. Plusieurs responsables des organisations de défense des droits de la femme basées au Sankuro se disent indignés par la décision prise par le ministre. Explication de Marie Réhémo, coordonnatrice provinciale du cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAVCO Sankuro.
Pas contente de ce qu'elle a fait parce qu'elle a été l'unique femme du gouvernement. Il a fallu d'abord qu'elle accepte cela parce que c'est son Congo, les femmes sont abandonnées à elles-mêmes. Mais nous allons faire tout pour savoir quelles sont les vraies raisons. Vous comprenez les pourcentages de la femme à ce niveau-là. C'est comme si elle ne veut pas que la représentativité de la femme ait lieu au Congo.
Signalons que Cécile Edougou était encore ministre provinciale de l'Intérieur du gouvernement Joseph Stéphane Mukumadi. Non investi par l'Assemblée provinciale suite à la crise qui a opposé plusieurs mois l'exécutif provincial à l'organe délibérant de la province. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
L'information est une denrée à faire consommer au public, c'est ce qu'a déclaré le ministre provincial de la communication et médias du Kwilu aux journalistes de Bandundu. C'était lors d'une rencontre d'échange et de sensibilisation le jeudi. Zéphirin Mouma s'exprime au micro de Irène Boma.
L'information est à cet égard une denrée à faire consommer au public sans pierre, cailloux, sable ou tout effet indésirable. Imaginez-vous, vous êtes en train de manger les riz, vous rencontrez les sables à l'intérieur. Si l'information que vous faites consommer au public, on rencontre les pierres à l'intérieur, les cailloux, les sables, est-ce qu'on va la consommer à bon escient? On ne doit pas la jeter? Autrement, l'on doit écarter du travail de l'information l'intox, la désinformation. Un journaliste informé et bien formé, lorsqu'il voit que ici, les règles du jeu sont établies, il ne laissera pas ça inaperçu. Il portera sa pensée, son analyse sur les faits. Les médias locaux, du coup, nous doivent se dire, être dans ces différents rôles. Ils peuvent aider à la stabilité des institutions, au maintien de l'ordre public. En temps de conflit, vous comme journaliste, votre mission, certes, n'est pas d'endiguer les conflits, mais vous pouvez travailler pour les réduire.
Kasaï Central, les enseignants ayant remplacé les nouveaux inspecteurs de l'EPST depuis 2018 exigent le paiement de leur salaire. Ils ont organisé une marche hier à Kananga pour demander la régularisation de leur situation alors qu'ils devaient automatiquement remplacer sur les listes de paie leurs collègues devenus inspecteurs de la 8e édition 2018. Ils disent être oubliés jusqu'à ce jour et travaillent sans rémunération. Un extrait de leur mémorandum est lu ici par l'un d'eux, propos recueillis par François Kadima.
Nous, enseignants ayant remplacé les inspecteurs de la 8e édition, avons le profond regret de constater que nous sommes oubliés depuis 2018 à ce jour sans salaire et que les inspecteurs partants étaient oblitérés sur les listings des écoles depuis le mois de juillet 2020. En effet, nous avons constaté la violation des instructions officielles stipulant que les salaires et le patrimoine de l'école, d'où les enseignants remplaçant des inspecteurs devront bénéficier le salaire de ces derniers. Chose non faite ou matérialisée qui nous plonge dans la désolation. Sur ce, nous demandons à toutes les autorités éducatives et politiques, nationales et provinciales, de compatir avec nous car nous en avons ras-le-bol. Faute de quoi, nous nous comporterons en responsables pour nous prendre en charge. Veuillez nous remettre dans nos droits plus tard au mois de juin.
Pour sa part, le préfet de Kasaï Central 1, l'une des personnalités qui ont reçu ce mémorandum, a promis de le transmettre à qui de droit. Sud Kivu, les abeilles sont menacées par l'homme et cette situation entraîne une faible production du miel. Il est temps d'investir dans l'apiculture et sauvegarder l'abeille car cet insecte joue un rôle important dans la vie. Ceci ressort d'une conférence apicole organisée jeudi par la coordination provinciale de l'apiculture dénommée Monde des abeilles en collaboration avec le ministère provincial de l'agriculture, pêche et élevage. Cette activité rentre dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'abeille le 20 mai de chaque année. Le coordonnateur des apiculteurs du Sud qui vous parle ici de l'état de lieu de l'apiculture dans cette province ainsi que du rôle de l'abeille sur le plan socio-économique. Dieu merci Mahano au micro de Jean-Baptiste Ntonga.
On a célébré la 4e édition sous le thème « Volons au secours des abeilles ». C'est puisqu'on a constaté que les abeilles sont menacées de beaucoup de maux et alors on a voulu qu'on puisse les secourir. Et nous dans le contexte provincial, coordination des apiculteurs, nous avons célébré cette journée sous le thème « L'abeille au centre de la vie ». Beaucoup de gens sont en train de se comporter en amis du miel, ils sont des amis du miel, mais ils deviennent ennemis de l'abeille. On a invité les personnes à avoir un bon regard à l'égard de cet insecte, puisque c'est cet insecte qui pollinise nos champs. Sans cet insecte, on ne peut pas récolter des produits agricoles et donc il y aura l'insécurité alimentaire et aussi l'insécurité sanitaire puisque c'est un insecte qui se comporte en docteur naturel.
Et hier, 21 mai, c'était la journée de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. À Butembo, pas de cérémonie officielle pour marquer cette journée. Pire, depuis 2 ans, aucune activité n'a été organisée dans le cadre du renforcement de la cohabitation pacifique dans cette région. Papi Kangala, président du cadre de concertation intercommunautaire, parle des manques de moyens. Il appelle à l'aide pour relancer cette structure. Papi Kangala est au micro de Florida Kahambu.
Nous avons quand même le souci d'organiser ça, mais nous, on évolue avec nos cotisations mensuelles. Ça ne suffit pas pour organiser de telles activités. Nous avons écrit à nos partenaires pour qu'ils nous financent. Jusqu'à présent, pas de réponse. Nous avons lancé des messages, c'était vers l'année 2015, pour les hommes de bonne volonté de nous aider pour que nous ayons quand même un petit financement. C'est toujours des promesses, ça nous avait découragé. Nous avons des documents de fonctionnement, mais il n'y a pas de moyens qu'on puisse vraiment se procurer même un bureau. Nous avons écrit à la MONUSCO en 2017. Ils nous avaient promis qu'il va faire quelque chose. Jusqu'à présent, nous attendons. C'est ce qui bloque un peu la machine. Nous voulions organiser normalement les films, les livres, les disques et sur les demandes du public pour faire promouvoir la diversité culturelle.
Actualité Afrique Monde.
Covid-19, le Fonds monétaire international FMI propose un plan de 50 milliards de dollars pour mettre fin à la pandémie et renouer avec la croissance mondiale. C'est ce qu'a annoncé Kristalina Georgieva, la directrice du FMI, à l'occasion du sommet mondial virtuel de la santé qui s'est ouvert hier à Rome dans le cadre du G20. Ce plan va associer des subventions d'un montant de 35 milliards et des financements gouvernementaux à hauteur de 15 milliards. Mais pour boucler ce plan, les auteurs du projet rappelle aux pays du G20 qu'il manque près de 13 milliards de dollars de financement supplémentaire. L'objectif du FMI est de faire vacciner au moins 40% de la population mondiale d'ici la fin de l'année et 60% au premier semestre 2022.
L'invité.
Nous recevons, comme annoncé, le directeur provincial de l'Office des voiries et drainages OVD dans le Kasaï central. Alain Chimbalanga revient sur le projet Chilejelu qui consiste à l'assainissement et l'asphaltage d'environ 35 km de la voirie urbaine de la ville de Kananga. Où en est-on avec ces travaux lancés en mars dernier et dont l'entreprise chinoise Crexet est attributaire et l'OVD maître d'ouvrage délégué? Alain Chimbalanga s'entretient à ce sujet avec François Kadima.
Monsieur Alain Chimbalanga, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Voilà, le projet Chilejelu a été lancé depuis le mois de mars. Alors jusqu'à ces jours, plusieurs personnes se demandent, les travaux n'ont pas encore commencé. Qu'est-ce qui bloque?
Je crois que rien ne bloque. Hein. L'entreprise a une période de mobilisation selon le marché. La période est de 2 mois. Et pendant ce temps-là, l'entreprise aussi n'est pas restée bras croisés à attendre l'arrivée de son équipement et des matériaux. L'entreprise travaille sur l'avenir évolution dans la commune de Katoka jusque-là. Et hier, l'entreprise était à Ndécha, en train de travailler. Je crois que tout va bien.
Quand vous dites l'entreprise était en train de travailler à Ndécha, en train de faire quoi?
En fait, l'entreprise est censée d'abord, dans un premier temps, assurer les écoulements des eaux. Et pour que les eaux puissent être bien canalisées, il faut avoir les systèmes de drainage. Donc jusque-là, l'entreprise est en train de faire la fouille pour le caniveau. Et au même moment, il est en train de mettre le radier, donc le béton en dessous de la fouille, et construire les parois de maçonnerie en bloc plein.
Dans l'exécution de travaux, il y a l'OVD et Grexet. Qui est qui et qui fait quoi et comment?
Bon, il convient de signaler que l'OVD est le maître d'ouvrage délégué. La maîtrise d'ouvrage est réservée au ministère des Infrastructures, qui a en fait délégué ce pouvoir-là à l'entreprise qui est le nôtre, à l'OVD, qui est gestionnaire, au fait, de la voirie. Et nous avons, dans cette mission, nous avons encore une autre mission, celle de surveillance. L'OVD assure la surveillance. Et à côté, nous avons un bureau de contrôle pour contrôler la qualité des travaux, qui est Techniplan. Et l'entreprise, Crexet, c'est l'entreprise attributaire, comme on dit.
Alors, dans la faisabilité, Chilegelou, donnez-nous un peu les lignes qui sont concernées par les travaux.
Oui, nous avons d'abord signalé que Chilegelou, c'est pour 36 mois. 36 mois, c'est 3 ans. Et on va faire 35 kilomètres de route. Nous avons la route Nganza-Chikaji, l'avenue Docteur Tshisekedi, la route Tambo-Saint-Bernard, l'avenue Kamwandu, l'avenue de la Révolution 1, qui part de Katoka jusqu'au niveau de Ndécha, c'est 4 km 180. Révolution 2, qui part de Ndécha jusqu'à Lukonga, c'est 2,364 km. Nous avons en ville l'avenue de la Mission, qui part de Rompon et Mokassa jusqu'au niveau du lycée Buenamuntu. Nous avons l'avenue de l'hôpital, qui part de lycée Buenamuntu jusqu'à l'hôpital général. L'avenue Bagira, qui part de l'hôpital jusqu'à Sangabantu. L'avenue Dispensaire, qui sera réhabilitée de Rompon, de l'école Sangabantu jusqu'à l'avenue Tshisekedi, qu'on appelle Commerce. L'avenue Kasavubu, sur toute sa longueur. L'avenue Goma, avec ses doubles voies, l'avenue Walikale, qui sera pris aussi sur toute sa longueur, 0,238 km. L'avenue où le boulevard Mukenge-Chabantu, dans ses doubles voies, la route EFO, sur toute sa longueur, 2,370. Route ICA, combinée, ça nous fait à peu près 3,876 km. Voilà un total de 35 km. Qui doivent être exécutés pendant ces 3 ans.
Parlons de coûts de travaux. C'est vrai que vous avez été dernièrement invité à l'Assemblée provinciale. Il y a un problème entre l'OVD et Grexet par rapport au financement de ces travaux ou l'exécution. Qu'est-ce qui se passe réellement?
En fait, l'entreprise est allée demander auprès d'une banque, solliciter une ligne de crédit. L'entreprise a eu cette ligne de crédit.
Grexet, bien sûr.
Alors, le gouvernement congolais assure le remboursement au travers de Foner sur ce qui revient à l'OVD, parce que Foner travaille avec l'OVD pour l'entretien des routes. C'est comme ça que pour le Grand Kassai, je dis bien pour le Grand Kassai, le contrat a conclu 96 943 000 $, tout taxe compris, pour tous les Grands Kassai. Et que dans ces montants, il y a le frais de travaux, qui s'élève à 76 871 000 $ pour tous les grands Kassai. Ça, ce n'est pas pour la ville de Kananga. Nous avons les frais des études, contrôle et surveillance, et nous avons aussi la TVA. Voilà à peu près les gros. Ce n'est pas dire que l'entreprise a volé l'argent à gauche, à droite. Non. L'entreprise est allée prendre un crédit au niveau de la banque, et nous assurons le remboursement pendant à peu près 6 ans. Donc les travaux vont continuer, et les travaux prendront une autre dimension d'ici là.
Monsieur Alain Timbalan, à nouveau, disons merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Notre invité, le directeur provincial de l'Office des voiries et drainage OVD Kassai Central, était avec François Kadima. Ainsi prend fin ce journal coordonné par Richard Junior Kamunga sous la supervision de Ben Kabamba. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi.